Bonjour et bienvenue dans l'Expresso de la politique, votre nouvelle émission sur Radio Campus Amiens. Ici, on décortique l'actu politique, française, internationale, de manière claire, précise et accessible. Aujourd'hui, on revient sur un événement pour le moins éclair, la démission de Sébastien Lecornu, Premier ministre pendant à peine 27 jours. Oui, vous avez bien entendu, moins d'un mois à Matignon. Même un expresso n'aurait pas le temps de refroidir avant que tout s'écroule brutalement, soudainement. Installez-vous confortablement. Prenez votre café, votre expresso et plongeons ensemble dans les coulisses de ce gouvernement qui n'a pas fait long feu. Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre le 9 septembre 2025, succédant à François Bayrou. La mission était de stabiliser le gouvernement. Pas des moindres, mais à peine 14 heures, presque 836 minutes normalement, après la formation du cabinet, il annonce déjà sa démission. Démission éclair que l'on a vue apparaître sur nos écrans lundi autour de 9h, 9h30. 9h41 normalement. Les tensions internes étaient palpables. Certains ministres n'étaient pas d'accord avec la composition du gouvernement qui avait été annoncée dimanche soir. On l'a vu justement avec le tweet de Bruno Retailleau, figure importante de chez LR et qui gérait justement ministre de l'Intérieur, qui est démissionnaire actuellement. Et la presse française souligne les fractures profondes au sein de la majorité présidentielle. Il faut revenir sur cette nomination du gouvernement de Lecornu qui a été considérée par beaucoup et de manière très légitime, comme l'ultime affront qui était possible. Sourd à la censure de son gouvernement précédent, Emmanuel Macron a renommé une équipe quasiment identique et a même rappelé Bruno Le Maire, alors qu'il était en Suisse tranquillement à faire ses petits cours d'économie. Au-delà même d'une chute qui semble inéluctable, la crise politique prend une dimension complètement nouvelle, avec une portée beaucoup plus significative. Déjà, les LR, certains membres du socle commun, du centre, claque déjà la porte. On l'a vu justement dernièrement avec la prise de parole d'Édouard Philippe qui a été Premier ministre d'Emmanuel Macron et qui justement a dit qu'il serait plus judicieux de mettre en œuvre une présidentielle anticipée après le vote du budget pour 2026, c'est-à-dire après le vote et qui serait donc cette élection effective dès l'année prochaine. On l'a vu justement avec la prise de position de Gabriel Attal qui a justement affirmé que, comme un certain nombre de Français, il ne comprenait plus les décisions du chef de l'État et qu'il y avait une forme d'accaparement, de volonté de conserver le pouvoir. Mais rien ne compte. Non, rien ne compte. Ni les élections législatives de 2022 qui ont vu le camp présidentiel perdre sa majorité absolue, ni les élections européennes de 2024 qui ont vu les soutiens du chef de l'État engranger un score historiquement bas. Il vaut mieux le rappeler, 14,6%. Ni les élections législatives de la même année, provoquées par la dissolution surprise, qui a été un échec, et marquée par la défaite de la majorité sortante, ni la chute par deux votes de l'Assemblée en décembre 2024 et septembre 2025, des gouvernements bricolés à la va-vite par le chef de l'État, en coalition, souvent avec LR, on reprend toujours les mêmes. Rien ne compte, sinon la transformation en un véritable clan qui s'est refermé de plus en plus autour du chef de l'État, dont la seule ambition commune, bien évidemment, semble être celle d'une certaine forme de survie politique. Conserver le pouvoir, coûte que coûte, encore un peu, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, si on le peut, c'est assez rare en ce moment. Même minoritaire, même désavoué. L'éphémère trajectoire du gouvernement Lecornu, selon moi, raconte l'inverse. À l'inverse, l'incapacité du président de la République à pouvoir renouveler ses proches, à pouvoir renouveler ses ministres et a fortiori ses idées. Depuis un an, il n'a fait que recycler ses derniers soutiens sans varier ses politiques. Le tout en s'appuyant sur le seul parti ayant refusé, pour la grande majorité d'entre eux, de faire front républicain au moment des législatives anticipées après la dissolution de juin 2024, et les ayant par ailleurs largement perdus. Il faut mieux le rappeler aussi, au risque de faire ressembler la fin de son second quinquennat à un interminable gribouillage, un peu en n'importe quoi, qui est gribouillé à la va-vite. Mercredi 8 septembre, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu s'est exprimé sur le plateau de France 2 à la suite de deux jours de négociations qui lui avaient été demandées alors qu'il venait de démissionner le lundi matin par Emmanuel Macron d'entamer des négociations avec les différentes formations forces politiques présentes. Selon lui, les conditions pour nommer un nouveau Premier ministre dans les 48 prochaines heures seraient réunies. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il est à peu près 17h24, 17h25, vendredi, et nous devrions savoir le nom du futur élu ce soir. Il a éloigné Sébastien Lecornu, le spectre menaçant de la dissolution qui agite toute la classe politique et qui menace. Le nom du locataire de Matignon va donc changer, encore une fois, cela n'est décidément plus nouveau, mais le problème à résoudre reste toujours le même. Est-il possible de trouver une entente entre les différentes forces politiques présentes à l'Assemblée nationale ? La question reste largement sans réponse. Mais l'histoire aurait pu s'écrire autrement. Face au réveil, soudain, c'est un petit mot, assez faible je trouve, des appétits partisans. Comme l'a souligné justement Sébastien Lecornu, c'est un Emmanuel Macron qui s'est montré assez joueur, selon l'un de ses anciens ministres, qui envisageait des dimanches soirs de mettre en œuvre une dissolution pour rendre clairement la monnaie de la pièce aux Républicains et à la petite chorégraphie qui avait été jouée par Bruno Retailleau. Ces derniers sont jugés à l'Élysée responsables de la mort du socle commun et de la ruine complète du gouvernement Lecornu, qui aura tenu moins de 24 heures. Après avoir protesté contre la présence de l'ancien ministre de l'économie, on l'a dit avant, Bruno Le Maire, au portefeuille des armées, qui est un domaine réservé du chef de l'État. Au lendemain de ce nouveau psychodrame, j'en perds mes mots, qui conduit à la démission de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron se laisse finalement convaincre par ses proches qu'une dissolution n'est au mieux pas indispensable, mais au pire suicidaire, au regard de l'impopularité du camp présidentiel. Je pense qu'il est bon aussi de rappeler qu'Emmanuel Macron... Sa cote de popularité est tombée à 14% ces derniers jours, elle était à 17%, elle ne fait que baisser, mais elle baisse de manière constante et drastique. Une nouvelle dissolution amènerait au même résultat et une fuite en avant vers un blocage qui pourrait être davantage définitif, a confirmé notamment sur France 2 mercredi, comme 7 millions près de Français l'ont écouté, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu. Selon moi, au vu de cette situation largement rocambolesque, grotesque, il est souvent plus judicieux, intéressant, pertinent de se pencher sur ce que pense la presse internationale qui décortique souvent avec plus de finesse les enjeux du moment. Parce que comme nous allons mieux le comprendre ensemble, la crise française que nous traversons actuellement continue de passionner la presse étrangère, de manière unanime. Depuis Bruxelles, les inquiétudes se multiplient. Le Soir titre « Un vaudeville à la française », ça veut tout dire. Le chaos français devient l'autoroute pour l'extrême droite et un péril pour l'Europe. Et ça, c'est particulièrement intéressant et beaucoup d'analystes ne le soulignent pas assez, selon moi. Dans notre pays, comme justement le décrit et le met bien en évidence le journal, les premiers ministres se succèdent, on a cette petite valse des ministres. C'est une situation particulièrement instable, on peut le dire, qui ouvre la porte à l'extrême droite et menace directement le projet, la construction européenne, comme le souligne le journal. Le gouvernement le plus court depuis un siècle, la chute du troisième Premier ministre nommé par Macron en moins d'un an, cette folie politique collective renvoie l'image d'un pays qui ne tourne plus rond, qui donne la possibilité au Rassemblement national de se présenter comme la formation de stabilité politique, qui, eux, auraient justement la possibilité de se présenter littéralement comme des personnes qui sont responsables et qui ont le sens des responsabilités. Le Soir, il se montre particulièrement critique. Et il met en évidence une descente aux enfers qui a été initiée après la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, qui voulait une certaine clarification dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale. Eh bien, la clarification, elle nous amène à cette situation rocambolesque qu'on peut constater depuis bientôt près d'un an et demi. La démarche de Macron, qui se présentait en 2017, on l'a dit au moment de l'élection présidentielle, comme l'unique et seul rempart face à la montée du Rassemblement national, n'aura été, si on analyse bien, que son marchepied et d'une certaine manière un accélérateur de ce parti qui peut actuellement se contenter d'observer et de recueillir les fruits de cette situation. La célèbre formule que l'on connaît bien actuellement du « en même temps » de faire un petit peu, de prendre des idées à droite, de prendre des idées à gauche, n'aura été qu'une manière assez déguisée, subtile, on peut dire, de pouvoir se maintenir au pouvoir pour Emmanuel Macron sans devenir une véritable philosophie politique permettant de créer des consensus, des compromis, de gouverner, on peut le dire, par coalition. Même si ce n'est pas véritablement le sens de la Ve République dans laquelle nous nous trouvons, et c'est pourquoi certains, encore plus dans le contexte actuel, appellent à une Vie République qui pourrait permettre de sortir de cette situation, puisque certains constitutionnalistes, des politistes, mettent en évidence les limites qui sont donc là au grand jour de la Ve République qui arriverait à son terme. Mais ça, c'est une autre histoire encore. Le quotidien Le Soir, à Bruxelles, s'interroge. Mais comment ces élus, héritiers des Lumières et des et désireux de servir la grandeur de la France, ne sont-ils pas conscients du gouffre dans lequel ils sont en train de jeter leur pays par un certain aveuglement personnel et partisan ? Et je trouve que c'est un point absolument central, absolument fondamental, qu'a souligné justement l'ancien Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, des appétits partisans, où on est dans une logique où tous les partis essayent de se structurer, de se réorganiser par rapport à l'élection présidentielle de 2027, qui est dans tous les esprits et qui accapare complètement le débat politique largement. La Chine, elle regarde aussi de près notre situation politique et elle tente de comprendre ce qui se joue réellement et de manière concrète. Les observateurs, ils notent aussi cette valse des premiers ministres. On n'en voit plus le bout, plus la fin, et on voit dans le cas français le signe d'un système démocratique dont la gouvernance est à l'agonie, littéralement. Ce système où on prend toujours les mêmes et on recommence a conduit à l'opposition à penser que Macron n'était pas disposé au compromis. Bien évidemment, quand on reprend toujours les mêmes premiers ministres qui appartiennent à des formations politiques qui ne sont même pas parvenus à avoir un certain nombre de députés après les législatives anticiper la dissolution de 2024, cela pose question d'une formation politique qui est largement minoritaire, avec un socle commun, centre commun qui n'existe plus vraiment. Comment peut-on justifier, expliquer cette situation aux Français ? C'est complètement lunaire, je trouve, et ça renforce cette déconnexion, ça renforce ce fossé entre justement les citoyens et les politiques. Et ce système où on prend donc toujours les mêmes, et on va chercher à refaire les mêmes politiques qu'avant, comme on l'a dit juste précédemment. Derrière cette farce d'un Premier ministre qui n'en fut ni plus de démissionner tout le temps, il ne s'agit certainement pas seulement d'incompétence personnelle, comme le soulignent justement les journalistes, ou de malchance, mais d'une maladie structurelle de la politique française. C'est pour ça justement que j'évoquais cette notion de potentiellement, comme on le dit, on peut l'entendre dans les débats, de passer à une Sixième République qui pourrait permettre de sortir de cette crise et de résoudre certaines problématiques. La Suisse s'interroge aussi. Emmanuel Macron est-il devenu fou ? Fou, pas au sens où on l'entend, mais fou politiquement parlant. Eh bien, il s'agit tout simplement, selon eux, de la maladie de l'Élysée. Qu'est-ce que c'est ? Une maladie qui conduit tous les présidents à vivre d'une certaine manière, on pourrait dire, assez reclus, dans un dangereux isolement. On a vu cette vidéo qui a tourné, qui a été retransmise par BFM TV. Normalement, on voit Emmanuel Macron qui se balade sur les quais de la Seine de manière très seule, après justement cette situation complètement rocambolesque qu'on peut vivre là de manière encore plus accentuée ces derniers jours. Et dans un isolement qui est complètement dangereux pour notre démocratie, point où on pourrait se dire que ça conduirait le président de la République ou ses proches soutiens à prendre des décisions entre eux, à discuter de décisions qui provoqueraient des crises majeures ou qui seraient complètement incomprises, comme on l'a vu avec la dissolution en juin dernier. Celle que traverse la République depuis la démission, surprise, en est un exemple parfait. La Suisse pente aussi du doigt le fait que Macron se place désormais comme le meilleur allié du RN. C'est ce que notamment a souligné Le Soir à Bruxelles. Dans les séismes politiques que traverse la France, la patronne du RN, Marine Le Pen, sort victorieuse sur tous les plans, observe Blic. Pourquoi on peut dire ça ? Parce que Marine Le Pen n'a pas besoin d'être stratégique, d'élaborer une certaine forme de stratégie particulière, encore moins de hausser son niveau de jeu politique dans une France qui se retrouve véritablement à l'intérieur d'une crise sans précédent depuis 1958. Elle a juste à récolter, comme on l'a dit, les fruits à répétition des politiques qui avaient pu la ridiculiser sur son programme, notamment lors du débat avec Emmanuel Macron en 2017. La crise actuelle peut lui profiter, indéniablement. Et c'est ça justement qu'il faut retenir. Emmanuel Macron, par son comportement, par ses obsessions, est devenu de facto son meilleur allié. C'est justement la phrase pour terminer l'article du journal suisse. Et c'est fou justement de se dire ça. Et c'est quelque chose de très intéressant justement à retenir. Emmanuel Macron, il doit maintenant, on l'a dit, c'est ça l'enjeu principal de ces prochaines heures, puisque là il est littéralement 17h30 vendredi, Il doit maintenant nouer un nouveau Premier ministre rapidement pour éviter la paralysie institutionnelle et pour éviter de se retrouver contraint à devoir proclamer justement une dissolution où on imagine mal Emmanuel Macron démissionner, mais je pense plus une dissolution. Le gouvernement démissionnaire reste en charge des affaires courantes, on le sait, mais les réformes et le budget sont suspendus. On pourrait presque appeler ça une pause café prolongée à l'échelle nationale, mais sauf que ça ne fait plus beaucoup rire. Cette crise, elle nous met en lumière la fragilité de notre système politique avec des tensions internes qui pourraient offrir potentiellement des opportunités aux forces extrêmes, comme on l'a dit avec le Rassemblement national, comme on peut le voir justement avec le Rassemblement national qui demande immédiatement la démission ou la dissolution avec des législatives anticipées ou la démission d'Emmanuel Macron. On peut le voir aussi avec LFI qui ne souhaite plus justement prendre part aux discussions qui ont eu lieu cet après-midi à l'Élysée pour se distinguer et se mettre en position véritablement de rupture et de ne plus dialoguer avec le chef de l'État et de souhaiter justement la démission et la dissolution. On peut trouver justement ces revendications qui justement sont très nombreuses, de plus en plus importantes. Et ça, c'est quelque chose qui a souligné parce que toute cette situation rocambolesque, burlesque, grotesque, qui nous donne une image déplorable, lamentable de la situation politique à l'heure actuelle en France, elle continue d'affaiblir, de détériorer le lien des citoyens dans la politique et dans leurs représentants. Il était déjà particulièrement affaibli, mais ça ne fait que se renforcer. Et justement, je trouve une analyse de Pierre Cerna, qui est un historien qui a fait une chronique dans Le Monde, qui m'a fortement interpellée. Il la titre de cette façon suivante. « Macron est dans un déni total de sa responsabilité ». Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il dit justement, selon lui, que les discours de modération mènent au chaos. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand, justement, on prend simplement cette phrase, que les discours de modération mènent au chaos, ça paraît complètement insensé, on se dit il y a quelque chose qui paraît très étrange avec cette phrase. Mais lui, justement, il explique, cet historien Pierre Cerna, en disant que les secousses actuelles que l'on peut connaître sont le dernier avatar d'un gouvernement d'extrême centre. On l'a vu, Emmanuel Macron s'est positionné, a voulu incarner cet extrême centre depuis son élection, sa première élection en 2017. Est susceptible, cet extrême centre transitoire, de mener à l'autoritarisme ou à une forme parallèle qui pourrait lui ressembler. C'est Pierre Cerna qui a formé cette notion d'extrême centre qui, selon lui, est un poison français. Parce que la puissance, selon lui, de l'extrême centre, c'est de pouvoir stigmatiser les extrêmes des deux côtés et de tracer une possibilité, un chemin au milieu. Et ça, c'est notamment ce qui a été fait. Si on regarde légèrement en arrière, au moment des législatives anticipées en juin 2024, les partis de droite et certains du centre ont tenté de mettre sur un même plan d'égalité la gauche radicale et l'extrême droite. LFI et l'extrême droite. Ou certaines formations même du PS, des écolos. Comme si ces deux formations politiques pouvaient être jugées comparables. Comme si on pouvait comparer une extrême droite et de l'autre côté, une gauche que l'on peut appeler pour une certaine part radicale ou une gauche comme le PS, LFI, les partis écologistes qui ont été mis sur un même plan d'égalité. Ce qui pose une question fondamentale parce que s'installe la contradiction au cœur de l'extrême centre. Celle d'un discours de modération assorti d'un pouvoir exécutif d'une dureté totale. Eh bien ça, on peut se référer directement à la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron qui tend vers un régime de plus en plus vertical, une pratique du pouvoir qui est de plus en plus verticale et le fruit d'un seul homme et de ses décisions qui sont complètement personnelles. Et ça, on voit que c'est un phénomène qui s'accentue de plus en plus ces dernières années et justement depuis la réélection d'Emmanuel Macron justement en 2022. Macron, il s'est lui-même revendiqué, on l'a dit, de l'extrême centre, du centre, d'être au-dessus des partis politiques, d'incarner une nouvelle vision et de pouvoir porter un nouvel espoir. Il l'a fait justement de manière encore plus significative entre les deux tours, si vous vous souvenez bien, de l'élection présidentielle de 2022, en évoquant cette fameuse rhétorique de la modération qui s'est mise en œuvre, de prendre un petit peu de la droite, de la gauche, des ministres de gauche, des ministres de droite, et d'essayer justement d'avancer dans cette direction. Mais justement, cet historien Pierre Cernat, il montre que ce discours de modération, il mène inévitablement, d'une certaine manière, à une forme de chaos. Emmanuel Macron, il a besoin de ces forces radicales, c'est ce qu'il analyse. Il a besoin justement d'avoir une gauche qui est plus radicale, pour une certaine part, ou d'avoir une extrême droite. Il en a besoin parce que ça le nourrit. Justement pour pouvoir avoir des formations politiques à critiquer et à se présenter comme en opposition frontale avec ces formations. Ça permet justement de se positionner à cet extrême centre. Et cela le nourrit d'une certaine manière. Et c'est ce qu'il explique justement cet historien, que les élites ne sont pas à la hauteur du moment. Et c'est, je pense, la conclusion que l'on peut faire à la fin. C'est que nos élites politiques, nos représentants politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux, ne sont pas à la hauteur des préoccupations, ne sont pas à la hauteur des réalités quotidiennes des personnes. Ce qui entraîne cette détestation encore plus importante des élites qui sont déconnectées de nos réalités et de notre quotidien. Et cela va creuser encore plus ce fossé, cet écart qui est abyssal et qui est monumental. Ça ne fait que le renforcer d'une certaine manière. On peut justement dire que la démission de Sébastien Lecornu, lundi à 9h41, est un symbole fort d'instabilité. Ça, on peut lire justement, après avoir vu à la fois Michel Barnier, Bayrou, Sébastien Lecornu, dans une moindre mesure, puisqu'il est resté dans un temps quand même de 14h de 836 minutes, c'est un rappel quand même de la fragilité structurelle de la Ve République. C'est pour ça qu'on a parlé peut-être d'une nécessité ou de passer à cette VIe République et de mettre en tout cas cette question posée dans le débat public. C'est ce qui se fait justement beaucoup en ce moment. C'est un événement qui a été suivi avec beaucoup d'attention à l'international, comme on l'a vu à Bruxelles, justement en Suisse. Et la question est, comment Emmanuel Macron pourra-t-il restaurer la stabilité et la confiance en France ? Il lui reste normalement, si mes calculs sont bons, 18 mois à peu près au pouvoir avant cette élection présidentielle de 2027 qui fait tant parler. Et ça pose une question fondamentale. Comment justement Emmanuel Macron, il va pouvoir rester au pouvoir et incarner toujours cette stabilité. Parce que là, elle est complètement morcelée, abîmée, et le lien de confiance qui était déjà très faible avec les citoyens et les citoyennes, il est de plus en plus piétiné. Et ça, ça pose un problème. Un problème pour le futur et un problème justement par rapport à l'élection présidentielle de 2027, ce qui peut entraîner un durcissement des formations politiques et justement certaines personnes à être complètement encore plus dégoûtées de la politique et de son fonctionnement. Sur ces réflexions politiques et sur cet épisode politique pour le moins bouillant, c'était le premier épisode de l'Expresso de la politique. Un gouvernement express, une France qui est toujours en quête de stabilité, on le verra en tout cas, on aura un peu plus de réponses ce soir, en tout cas je l'espère. Merci de m'avoir accompagnée pour ce décryptage sans filtre. Clair, direct, en tout cas je l'espère. On se retrouve très très vite pour un nouvel expresso bien serré de politique dans 2 semaines. En attendant, je vous souhaite de rester curieux, de rester informé, c'est ça qui est important. Et surtout, essayez de garder au maximum la tête froide, même quand la politique justement s'emballe.